Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. On est mardi 16 juin, il est 18h, bienvenue à bord du pédalo. Et aujourd'hui, et comme depuis le début de la semaine, le pédalo s'installe au quai pour 4 émissions spéciales consacrées au concours des compagnies du Festival d'Anjou. Chaque soir de la semaine, une troupe émergente viendra jouer ici une pièce originale. Et ce mardi, rendez-vous avec Cowboy ou Indien du groupe Déjà. Les comédiens Antoine Meunier et Sébastien Lazenec seront nos invités. Et puis en deuxième partie d'émission, on sera avec Violaine Daboville, responsable des relations avec le public. Avec elle, on va justement parler de l'accueil des spectateurs. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mardi 16 juin, alors ajustez vos gilets de sauvetage, parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Les 5 prochains soirs, à l'occasion du concours des compagnies du Festival d'Anjou, des troupes émergentes viennent présenter des spectacles originaux. Et ce soir, c'est au tour de la pièce Cowboy ou Indien du groupe Déjà. Pour en parler, on reçoit Antoine Meunier et Sébastien Lazenec. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes tous les deux comédiens de la pièce qui va donc être jouée à 19h. Comment on se sent là à H-1 ?
Bah ça va. On est hyper content de jouer dans cette belle salle et dans ce super festival. Il y a une petite pointe de trac quand même.
On est concentré. Disons qu'on est concentré.
Ouais, on est.
Mais tout a été fait pour qu'on soit. On a été bien accueillis. Ouais. Tout a été fait pour que ça se passe bien. Donc il y a pas de raison que ça ne se passe pas bien.
Concentré mais avec de la détente parce qu'avant l'émission il y a eu un petit joujou avec les micros quand même.
Oui bah non mais il faut la détente évidemment. Et puis de toute façon on considère que dans notre boulot aussi il faut arriver avec une forme de décontraction, d'être un peu dilaté en fait pour pouvoir jouer et être présent. Donc on cherche continuellement ça avant d'entrer en scène.
Alors cette pièce qui va être jouée, donc elle met en scène deux frères adultes qui ressassent, on pourrait dire, les souvenirs d'enfance et tous ces plaisirs qu'on n'arrive pas à retrouver une fois adulte. C'est comme ça qu'on pourrait un peu présenter la pièce ?
Oui, c'est ça.
On les voit pas que adultes, on les voit aussi enfants, on voit un petit peu toute leur vie. Voilà, on les voit à différentes étapes de leur vie, on les voit beaucoup adultes évidemment, mais il y a des scènes de l'enfance. On les imagine jouer dans leur piole, on les imagine... Voilà, quand ils étaient plus jeunes, et puis on les voit maintenant, et puis ça fait des allers-retours comme ça, ça commence pas avec l'enfance au début du spectacle pour finir avec l'âge plus vieux à la fin, c'est plein de sauts comme ça dans leur vie, plein de petits tableaux comme ça qui parlent toujours de la fratrie et de leur relation.
Alors la pièce, elle a été mise en scène collectivement par la troupe. Comment est-ce que cette idée de traiter ce genre de thématique a pu émerger en groupe justement, et pourquoi avoir eu envie précisément de parler de ce sujet ?
Ben, c'est un peu notre ligne artistique à groupe déjà de parler de nos relations, de ce qui nous unit, de ce qui nous lie dans cette société. On avait au préalable fait un spectacle sur nos liens d'amitié. Donc c'est des thèmes un peu universels qui parlent à tout le monde. Donc là, ça coulait de source de faire un spectacle sur nos liens de fratrie. Il existait même déjà un spectacle sur qui parlait déjà de la famille dans notre répertoire, donc c'était une évidence. Et Antoine a une sœur, moi j'ai deux frères, et puis on sait que c'est vraiment un thème qui parle. Et puis avec ce thème-là, on a moyen de toucher, d'aller dans l'émotion, dans la mélancolie, dans la nostalgie, et en même temps on a moyen d'amener beaucoup de rire en faisant en amenant de l'humour, quoi, avec des histoires de frères, il y a toujours beaucoup d'humour possible. Et c'est les deux terrains sur lesquels on aime aller, de mélanger humour et émotion un peu plus sensible.
Justement, la mélancolie, elle est présente dans la pièce, avec entre autres ce rapport à l'enfance. C'est quoi la force de ce genre d'émotion précisément dans une pièce de théâtre ? Qu'est-ce que ça peut apporter aux spectateurs ? Et même aux comédiens et comédiennes ?
Qu'est-ce que ça peut apporter aux spectateurs ? Ce genre d'émotion. Nous, enfin, avec Antoine, comme on est interprète du spectacle, mais on est également auteur, et c'est ce qu'on aime voir dans les spectacles, en fait, des spectacles qui nous chahutent un peu, qui vont nous titiller, qui vont chercher, qui nous font voyager dans nos émotions. Donc, on cherche avec nos spectacles à offrir le même parcours émotionnel à nos spectateurs. Ça fait partie de notre ligne artistique aussi.
Et c'est une émotion qui est encore plus impactante quand elle se marie avec l'humour, par exemple. C'est le cas aussi dans cette pièce ?
Oui, on considère que c'est une méthode c'est un moyen de parler de la fratrie, l'humour. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans nos spectacles parce qu'on pense que c'est, voilà, c'est un média qui nous aide à parler des sujets. Et puis ça te permet, comme disait Sébastien tout à l'heure, d'aller et de revenir dans plusieurs émotions, d'avoir une scène, par exemple, très stupide qui fait beaucoup rire, et puis juste après de passer dans quelque chose de plus nostalgique ou de plus dur ou de plus sensible. Et voilà, c'est ce qu'on aime voir, et donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Ouais.
Et dans la mise en scène de la pièce, on retrouve des références, encore une fois, à l'enfant, je le disais, avec il y a un ours en plus géant, il y a des costumes de chevaliers. C'est une manière aussi de créer un décalage presque comique avec ces personnages adultes et en même temps qui sont parfois habillés en costumes d'adultes et en même temps dans un univers plus enfantin.
Non, c'est pas forcément pour amener des décalages, parce que pour nous, enfin oui, avec les armures, il y a forcément une forme de décalage, mais ça a aussi du sens, parce que dans la mythologie, dans la littérature, dans l'Antiquité, il y a beaucoup d'histoires de fratrie, de fratricide, Romulus et Rémus, Abel et Caïn, donc ça avait du sens d'amener ces armures-là. Et puis évidemment, le côté chevalier des enfants. Qui est présent. Et puis avec l'ours bleu, c'est pareil, ça a du sens. Pour nous, l'ours bleu, il a vraiment une connotation particulière. Il représente justement l'enfance qui n'a pas tenu ses promesses, comme un espèce de bouc émissaire. Donc c'est pas juste du décalage, en fait. Il y a aussi pas mal de sens et de sensibilité.
Oui, il y a presque une plainte de ces adultes de se dire, tu parlais de l'enfance qui n'a pas tenu ses promesses, c'est tous ces rêves qu'on imaginait enfant et qu'en même temps on n'a pas pu réaliser. Pourquoi avoir voulu vraiment appuyer là-dessus?
Parce que ça nous concerne. Si tu repenses à ce que tu voulais faire quand tu étais petit, peut-être qu'il y aura un petit décalage avec ta vie actuelle et peut-être que ça va t'amener.
Ça va, j'ai pas trop à me plaindre.
Ouais, mais t'es encore jeune, tu verras. Et peut-être que ça amènera une certaine nostalgie ou des regrets ou rien que de regarder le parcours que t'as pu faire, etc. Voilà. Même des relations qu'ils avaient les deux frères, pourquoi les relations elles ont changé, pourquoi aujourd'hui ils se prennent la tête alors qu'avant ils étaient super proches, tu vois, toutes ces questions-là de famille, pourquoi tu changes de rapport avec tes parents, tu vois, la même chose, pourquoi tout ça, le fait de grandir, etc. Quoi.
Oui, il y a cette dualité avec les deux frères, mais qu'est-ce qui les oppose exactement dans la pièce, ou en tout cas une fois qu'ils sont adultes?
Ils ont pas pris les mêmes chemins au niveau social, au niveau politique. Ils ont évolué différemment. Ils sont, on va pas trop en dévoiler, mais c'est comme ça peut arriver souvent dans les fratries, quoi. C'est ouais, des chemins différents. Ouais.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui les rassemblent?
Beaucoup le passé.
Ouais, bien sûr.
Le passé. Et puis l'amour qui se porte malgré tout, quoi, en fait, mais qui n'est jamais dite.
Le lien inconditionnel, ouais, qui est entre les deux frères, qui en fait s'arrête jamais, même s'ils se disputent à l'âge adulte, etc. En fait, tout ça existe quand même, et c'est quand même là, donc ça fait quand même partie d'eux. Et donc ça génère aussi des interactions entre eux, mais qui se passent pas forcément aussi bien qu'ils voudraient, mais il y a quand même ce lien qui est là et qui est indéfectible.
Et en quoi le fait que ce soit deux frères, ça constitue justement un binôme efficace quand on veut raconter ce genre d'histoire? Tu parlais tout à l'heure des anciennes pièces où c'était des familles, où c'était des amis, et là, pourquoi précisément deux frères?
Oh, je sais pas, on n'a pas de réponse particulièrement, deux frères. Je vais me répéter, mais On a tous, ça parle à tout le monde, on a tous des frères et sœurs, ou bien on n'en a pas eu et du coup ça nous parle parce qu'on n'en a pas eu. Adultes, on a des enfants qui sont aussi frères et sœurs, donc comme on aime s'adresser à plus de monde possible, pour nous c'était cette histoire de fratrie le meilleur moyen de s'adresser à un maximum de spectateurs, quoi.
Et globalement, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire passer dans la tête des personnes qui vont venir vous voir quand vous avez écrit la pièce? C'était quoi la volonté? C'était de leur faire ressentir quoi?
La volonté, c'est toujours, quand on écrit, de dire que le spectateur, il va regarder le spectacle en se disant « mais ils sont venus écrire chez moi ». Tu vois, c'est un peu pour nous, c'est ce qu'on aime voir, en fait. On aime bien... Ouais, c'est ça. Nous, quand on va voir des spectacles, on aime bien être bousculé et se dire « mais ils étaient dans mon cerveau quand ils ont écrit ça ». Tu vois, donc on essaie de faire la même chose. Et comme le sujet, il est extrêmement universel... C'est forcément plus simple avec un sujet comme ça qu'avec d'autres.
Mais on n'a pas de message particulier, c'est pas un spectacle...
Pas forcément de message, mais d'émotion à transmettre.
Voilà, c'est plus ça, c'est plus une émotion, quoi, que le spectateur passe par plusieurs émotions. Quand on vient à la fin nous dire qu'on est passé du rire aux larmes et des larmes au rire, c'est notre meilleure récompense. Et puis aussi celle qui arrive souvent où des gens nous disent « oh là là, merci, faut que j'aille appeler mon frère. »
Faut que j'appelle mon frère.
Voilà. Alors la représentation, elle se fait dans le cadre, on le disait tout à l'heure, du concours des compagnies. Est-ce que vous avez des attentes en particulier à l'idée de vous produire dans ce cadre précis ?
Un maximum de thunes. Non,
non, on n'a pas d'attente particulière. Non, on est content d'être là, on vient jouer, on est ravis de jouer là, on a été hyper bien accueillis, on est content. Donc on vient faire notre spectacle et on est juste content de le faire. Après, le reste, bon.
Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la pièce et même à la compagnie en général ?
Même au théâtre, même en
même
particulier.
Même au théâtre, ouais, que le théâtre prospère, ouais. Voilà, je pense que ce serait bien de souhaiter ça au théâtre aussi, ouais. Et à la culture en règle générale. Voilà.
Et ben, le message est parti, est passé. Merci beaucoup Antoine Meunier et Sébastien Lazenec d'avoir été avec nous. On rappelle, vous êtes les comédiens de la pièce Cowboy ou Indien qui se joue dans quelques instants ici au Quai à l'occasion du concours des compagnies du Festival d'Anjou. Bonne soirée.
Merci. Merci.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Dans quelques instants, on accueille Violaine Daboville, responsable des relations avec le public du Festival d'Anjou. Mais avant, on fait une pause musicale. On écoute Dopamoon, c'est un groupe de musique électro aux airs festifs. Le morceau s'appelle Click Flash et c'est en feat avec Samantha Tiger. A tout de suite dans le pédalo. C'était Click Flash de Dopamoon, vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du pédalo et aujourd'hui, comme toute la semaine, on est au Quai pour des émissions spéciales consacrées au concours des compagnies du Festival d'Anjou. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet événement, c'est une grosse machine à faire tourner et pour comprendre comment on accueille au mieux les spectateurs, on reçoit Violaine Daboville, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des relations avec le public sur le festival, festival qui a démarré le 1er juin, on entame donc la troisième semaine, je vais poser la même question qu'à Ronan Pichavant hier, comment ça se passe pour l'instant ?
Ça se passe très bien, parce que déjà la météo est plutôt avec nous et c'est une grande, c'est un facteur qui est très important pour à la fois le bon déroulement, mais aussi l'ambiance du festival, notamment au château du Plessis-Massé. Et puis voilà, on attaque la troisième semaine, ce qui est une semaine très dense, sur laquelle beaucoup de beaux spectacles à venir.
Et alors sur la partie qui nous concerne particulièrement ce soir, la partie publique, quels sont les principaux retours qu'on a pour l'instant ?
Alors les retours sont très bons, effectivement la programmation de Jean-Robert Charrier a l'avantage, l'immense avantage d'être très éclectique, donc on en trouve pour tous les goûts, ce qui est très important pour le festival et puis pour nous, pour conseiller les spectateurs, de se dire qu'effectivement à l'ouverture de la billetterie on a des spectacles pour quels que soient les profils, quels que soient les centres d'intérêt, quelles que soient les envies de théâtre ou de moments de réflexion, ou de moments de bulles d'oxygène ou d'humour, enfin... Il y en a pour tous les goûts, ça c'est très agréable.
Alors le public, c'est la clé d'un festival qui se passe bien. Comment on fait pour qu'il se sente au mieux quand il vient voir un spectacle ?
Eh bien on essaie déjà d'être à l'écoute le plus possible des besoins des uns et des autres. Donc effectivement le festival d'Anjou mène depuis quelques années une politique, notamment une politique d'accessibilité, une politique dont on essaie d'être au plus proche des spectateurs. C'est aussi... On garde par exemple un guichet ouvert pendant toute la période du festival, enfin à partir de l'ouverture billetterie qui a lieu mi-avril jusqu'à fin de festival. On a un guichet installé au Grand Théâtre d'Angers qui est ouvert pour renseigner les spectateurs tous les après-midi, ce qui est encore le lien encore que l'on a effectivement, un lien humain avec les spectateurs. Une plateforme téléphonique, des mails pour renseigner au mieux, et puis des opérations d'accessibilité qui nous tiennent à cœur, c'est pour ça que j'en parlais aussi un peu, c'est-à-dire vraiment une écoute des besoins des personnes qui ont des déficiences auditives, visuelles, des problématiques pour se déplacer, essayer que l'accès au festival soit le plus fluide possible et que tout ceci soit le moins possible une question.
Alors, quand on pense à accueil de personnes, de public, on imagine toujours à ce qui se passe les jours J, mais en amont aussi, on imagine que c'est un gros, gros travail.
Oui, tout à fait. La programmation est souvent annoncée début mars. Donc, à partir de là, on a un très gros travail d'information des publics via des relais divers et variés. Donc ça nous occupe bien pendant un petit mois jusqu'à l'ouverture billetterie qui a lieu mi-avril. Sensibiliser, se déplacer dans des bibliothèques, de se déplacer au sein des associations, au sein de structures qui en font la demande ou vers lesquelles on est un peu plus proactif pour raconter cette programmation de Jean-Bert Charrier et puis parler des spectacles.
Et les publics ils peuvent être assez variés, on en parlait un peu tout à l'heure, en termes d'âge, d'exigence, de milieu. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à chaque personne ? On a compris que c'était la priorité, mais comment est-ce qu'on arrive à le faire ?
Je ne sais pas, il faut écouter les gens. Je ne sais pas, c'est un jeu de questions-réponses, c'est savoir à qui on s'adresse, c'est par des petites questions, savoir un petit peu voilà, ce pourquoi ils viendraient sur le festival et trouver... la pièce qui va effectivement correspondre à leurs attentes, que ce soit un premier pas ou que ce soit des publics plus aguerris au théâtre qui vont venir chercher d'autres types de pièces sur le festival.
On commençait à parler aussi tout à l'heure de l'inclusion du public, notamment sur les questions liées au handicap. Qu'est-ce qui va concrètement aussi être mis en place pour permettre de les accueillir au mieux ?
Donc effectivement, notre politique d'accessibilité aujourd'hui, elle commence à être très construite, même si elle s'améliore d'année en année. On propose à toutes les personnes qui ont des besoins très spécifiques de placement, que ce soit parce qu'effectivement, monter les gradins du Plessis-Massé qui n'ont pas de rambarde à toutes les allées, ça peut être problématique. Donc c'est être à l'écoute de ces besoins-là pour les replacer en bas de gradin. Ça va être bien sûr proposer à leurs accompagnateurs de se placer à côté d'eux, parce que le théâtre, ça se partage toujours. C'est être à l'écoute des personnes qui voient moins bien. Donc on a aussi des dispositifs complémentaires qui viennent se poser sur certains spectacles. On propose notamment de l'audiodescription sur le spectacle qui arrive bientôt, qui est « Ça, c'est l'amour » au Grand Théâtre avec Josiane Balasco et Marie Louberry. Ça va être aussi sur certains spectacles qui sont plus naturellement accessibles, proposer juste une découverte tactile des décors et une rencontre avec les comédiens pour que les personnes déficientes visuelles puissent identifier la voix au personnage et qu'une fois que la pièce démarre, ce soit fluide pour eux. On a tout un travail aussi vers les personnes qui entendent moins bien. On sait que ça touche une grande partie de la population et aujourd'hui le but du jeu c'est de chercher en tout cas à n'en exclure personne. Et donc là, on accueillait d'ailleurs un dispositif qui est très innovant en termes de technologie, puisqu'on propose là maintenant un Bluetooth particulier qui s'appelle AuraCast, qui commence à équiper tous les nouveaux appareils auditifs et le sera de plus en plus dans les années à venir. Et ce dispositif-là permet vraiment de connecter les appareils auditifs directement à la régie du spectacle et du coup d'avoir un son dans les oreilles qui est un son le plus fluide et le plus clair possible pour que voilà, un public le plus large puisse profiter vraiment pleinement et de manière qualitative du spectacle.
Et même si tous ces dispositifs sont mis en place, est-ce que c'est facile de communiquer dessus auprès des personnes qui, sur le principe, pourraient être intéressées pour venir à un événement comme celui-là, mais n'ayant pas connaissance des dispositifs, se disent « bah non, je laisse tomber ». Comment est-ce qu'on arrive aussi à faire connaître ce qui est possible, ce que le Festival d'Anjou met en place ?
Souvent, on dit que quand on a mis en place les dispositifs, on n'a fait que 20% du travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le perçois. C'est-à-dire que 80% du temps, c'est que cette information-là, que cette accessibilité-là, que cette proposition-là, elle aille rencontrer le public à qui elle est destinée. Et ça demande 80% du temps. Enfin, en tout cas, dans ma sensation, quoi. Donc, effectivement, on en parlait, par exemple, avec une personne sourde, parce qu'on a accueilli un spectacle qui s'appelle Une histoire de France, au Dôme à Saumur, qui est un spectacle sans parole. Donc, c'était un spectacle qui était tout à fait accessible aux personnes malentendantes et sourdes. Et donc, on proposait, grâce à un partenariat avec la Croix-Rouge française, on a proposé un interprétariat en langue des signes de la discussion après le spectacle avec le comédien, ainsi que du discours introductif. Et en parallèle de ça, on avait une proposition d'un stage découverte de la langue des signes, ouvert à tous, vraiment pour s'initier, pour 4 heures, pour découvrir la langue des signes. Et donc le formateur sourd, qui est angevin, avec qui j'ai échangé à la fin de la formation, disait que bah, oui, effectivement, cette proposition-là, qui a rassemblé 11 personnes sourdes tout de même sur le spectacle Une histoire de France, eh bien, effectivement, la communauté sourde aujourd'hui sur le Maine-et-Loire, il disait que c'était à peu près entre 300 et 400 personnes. Mais c'est des personnes qui sont disséminées un petit peu partout et bah, voilà, réussir à les toucher, puis de se dire est-ce que c'est le bon spectacle ? Est-ce que c'est un spectacle qui va les intéresser ? Bah, parfois, effectivement, on a des opérations qui touchent peu, mais se dire qu'on les rend accessibles et qu'elles sont réellement ouvertes à tous, bah, enfin, voilà, ça fait partie des exigences qu'on se pose.
Et on en revient sur ce fameux gros travail en amont à faire qui finalement fait que s'il n'est pas réalisé, au jour J, c'est plus compliqué. Le festival, il a plus de 70 ans. Est-ce qu'avec le temps, les exigences, les besoins du public ont changé et donc naturellement la manière d'accueillir aussi a changé ? J'imagine que la question de l'inclusion aussi fait partie de ces grandes évolutions qu'il y a eu à travers le temps.
Oui, et puis je crois que au sein de l'équipe, c'est des exigences qui sont entre nous aussi, chaque année plus fortes aussi. Les exigences du public, oui, mais ça rejoint vraiment nos envies aussi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur lesquels, effectivement, on essaie d'être proactif pour que, avant que le besoin se fasse sentir, on essaie d'avoir un petit coup d'avance.
Alors, l'accueil du public, on en parlait un peu en off avant, c'est aussi un rôle qu'on pourrait qualifier aussi de médiation culturelle. Comment est-ce que ce pont se crée justement entre des gens qui, sur le principe, vont entre guillemets juste voir une pièce et en même temps garder ce lien à la culture ?
Alors, effectivement, on essaie d'avoir des opérations très larges qui permettent des fois aussi de faire des premiers pas au Festival d'Anjou. Donc là, effectivement, on sera dans un rôle d'accueil de tout premier spectateur sur le festival, notamment grâce à des relais qui sont bien ancrés à Angers, notamment la Charte Culture Solidarité, où on a des partenariats aussi avec Grâce au Billet Solidaire, qui est un dispositif où les spectateurs peuvent donner, enfin, compléter, voilà, arrondir un peu leurs commandes en laissant quelques euros, et ces quelques euros font une somme qui est allouée à des structures différentes. Donc cette année, c'était la Cité des Soins, voilà, qui accompagne des personnes qui voilà, sont soignées pour un cancer, ou Solidarité Femmes. Donc là, on accompagne vraiment des premiers pas, souvent au Festival d'Anjou. Et puis après, on a des propositions aussi où on permet de faire un pas de côté par rapport au théâtre, par exemple des spectacles qui se déroulent au château du Plessis-Massé. Par exemple, j'ai un bon exemple, puisqu'on a accueilli Mon jour de chance, une comédie, là, la semaine dernière. Et du coup, les équipes de médiation du festival, qui sont également les équipes de médiation du château du Plessis-Massé, ont proposé un format 20 minutes pour découvrir le château sur la thématique des jeux de hasard, des jeux médiévaux, et qui permettait de rentrer dans les pièces meublées du château. Parce qu'on s'aperçoit aussi que des spectateurs aguerris du festival, c'est pas pour autant qu'ils connaissent les intérieurs du château, alors que pour autant ils en fréquentent la cour pendant tout le mois de juin. Donc on a des propositions comme ça qui permettent aussi de pouvoir compléter un parcours de spectateurs plus curieux, plus aguerris. On va d'ailleurs là samedi, on a un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts d'Angers, puisque on a parlé de la pièce « Ça, c'est l'amour » qui traite des violences conjugales. Et du coup, dans le cadre d'un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, il propose une visite autour des mythes qui peignent sous un terme de chef-d'œuvre aussi des histoires de la mythologie qui montrent finalement des scènes d'amour, mais qui parle de violence aussi. Donc il y a tout un parcours qui est fait au Musée des Beaux-Arts. Ça permet aussi, c'est des propositions qu'on met en place grâce à des partenariats pour que des spectateurs puissent compléter leur parcours de festivalier avec des propositions complémentaires.
Et l'idée de ce genre de partenariat dispositif, c'est aussi peut-être d'attirer un public qui ne serait pas venu au Festival d'Anjou aussi. Il y a aussi cette volonté derrière.
Oui, certains rentrent par les propositions complémentaires et viennent après sur le festival, effectivement. Là, on a proposé, alors c'est encore un autre exemple, c'est vrai qu'ils sont multiples, on a proposé avec l'association Plein Écran à Saumur, qui est un cinéma, une association qui est associée au cinéma Le Palace de Saumur, un film qui s'intitule « Tu ne mentiras point ». Et donc ce sont les habitués du Palace et de Plein Écran qui sont venus voir le film, qui était complété par une intervention d'Inès Caro qui interprète Bon Pasteur d'ailleurs ce soir au Dôme à Saumur. Et effectivement, des spectateurs de ce film se sont renseignés pour venir voir le spectacle en complément, en passerelle. Donc effectivement, les passerelles fonctionnent dans les deux sens.
Et est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont mises en place pour peut-être attirer des publics qui, tout court, sont éloignés des offres culturelles, qui, soit de toute façon, ne seraient jamais allés visiter le château du Plessis-Massé ou ne seraient jamais venus à une pièce du Festival d'Anjou. Comment est-ce qu'eux aussi, on arrive à les inclure, à les intégrer ?
Eh bien, c'est un des objectifs, notamment de la charte culture solidarité, qu'on a la chance d'avoir, qui se déploie sur le territoire angevin, vraiment sur la ville d'Angers, qui permet à des associations, des structures sociales, humanitaires, de proposer à leurs bénéficiaires des places à tarifs très réduits. C'est-à-dire que nous, structures culturelles, on propose un tarif réduit à la ville qui en prend encore en charge une partie pour pouvoir les revendre aux bénéficiaires à un tarif vraiment moindre qui permet vraiment de pouvoir proposer des premiers pas. Et donc dans ces structures bénéficiaires, on va parler certes des maisons de quartier, mais aussi du Secours Populaire, des Compagnons d'Emmaüs, de la Banque Populaire, de la Banque Alimentaire, vraiment de nombre de structures pour lesquelles effectivement ce sont des premiers pas au théâtre, en tout cas des premiers pas au festival.
Oui, on le disait, tout ça, forcément, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et derrière, dans ce dispositif, il y a quand même plusieurs dizaines de personnes qui travaillent justement sur l'accueil public. Comment est-ce que c'est déjà, qui sont-ils et comment est-ce qu'ils sont formés à pouvoir répondre à toutes ces attentes ?
On a l'avantage sur le Festival d'Anjou d'avoir un service de médiation qui est donc effectivement celui du château du Plessis-Massé. C'est une équipe commune. Donc ce sont eux qui vont vraiment travailler toutes les propositions de visite dont je parlais tout à l'heure par exemple, mais aussi qui vont proposer toutes les accueils de toutes ces structures dont on parle pour leur les accueillir au mieux, de manière la plus chaleureuse, pouvoir leur rendre ce lieu qui est parfois le grand château du Plessis-Massé le plus chaleureux, convivial possible, en tout cas les accueillir au mieux. Et puis après on a un pôle d'accueil des publics. Et là, on est trois, avec la billetterie incluse, et des équipes d'accueil qui sont des jeunes étudiants qui viennent en renfort pendant tout ce mois de festival. Et ils sont formés pendant toute une journée pour pouvoir accueillir au mieux tous les publics.
Parce que comme on le disait, donc c'est un accueil qui est très très important. Merci beaucoup Violaine Daboville d'avoir été avec nous. Donc on rappelle, responsable des relations avec le public sur le festival. Bonne soirée.
Merci.
Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, toujours au quai, pour une nouvelle émission consacrée au festival, au concours des compagnies. Merci à Étienne, à la technique. La programmation continue sur le 103 FM. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.